Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829 par Jean-François Champollion. Deuxième partie de 2 de la 13e lettre. Continuation de la description de Biban el Molouk ou Thèbes. La traduction que je viens de donner d'une des 24 tables qui composent la série des levées est certaine dans les passages où j'ai introduit les noms actuels des constellations de notre planisphère. N'ayant pas eu le temps de pousser plus loin mon travail de concordance, j'ai été obligé de donner partout ailleurs le mot à mot du texte hiéroglyphique. J'ai dû recueillir, et je l'ai fait avec un soin religieux, ces restes précieux de l'astronomie antique, science qui devait être nécessairement liée à l'astrologie, dans un pays où la religion fut la base immuable de toute l'organisation sociale. Dans un pareil système politique, toutes les sciences devaient avoir deux parties distinctes, la partie des faits observés, qui constitue seules nos sciences actuelles, la partie spéculative qui liait la science à la croyance religieuse, lien nécessaire, indispensable même en Égypte, où la religion, pour être forte et pour l'être toujours, avait voulu renfermer l'univers entier et son étude dans son domaine sans bornes. Ce qui a son bon et son mauvais côté, comme toutes les conceptions humaines. Dans le tombeau de Ramsès V, les salles ou corridors qui suivent ceux que je viens de décrire sont décorés de tableaux symboliques relatifs à divers états du soleil, considérés soit physiquement, soit surtout dans ses rapports purement mythiques. Mais ces tableaux ne forment point un ensemble suivi. C'est pour cela qu'ils sont totalement omis et qu'ils n'occupent pas la même place dans les tombes royales. La salle qui précède celle du sarcophage, en général consacrée aux quatre génies de l'Amenti, contient, dans les tombeaux les plus complets, la comparution du roi devant le tribunal des 42 juges divins qui doivent décider du sort de son âme. Tribunal dont ne fut qu'une simple image, celui qui, sur la terre, accordait ou refusait au roi les honneurs de la sépulture. Une paroi entière de cette salle, dans le tombeau de Ramsès V, offre les images de ses 42 assesseurs d'Osiris, mêlées aux justifications que le roi est censé présenter ou faire présenter en son nom à ces juges sévères, lesquels paraissent être chargés, chacun, de faire la recherche d'un crime ou péché particulier et de le punir dans l'âme soumise à leur juridiction. Ce grand texte, divisé par conséquent en 42 versets ou colonnes, n'est, à proprement parler, qu'une confession négative, comme on peut en juger par les exemples qui suivent. Ô Dieu, tel, le roi, soleil, modérateur de justice, approuvé d'amont, n'a point commis de méchanceté. Le fils du soleil Ramsès n'a point blasphémé. Le roi, soleil, modérateur, etc., ne s'est point enivré. Le fils du soleil Ramsès n'a point été paresseux. Le roi, soleil, modérateur, etc., n'a point enlevé les biens voués aux dieux. Le fils du soleil, Ramsès, n'a point dit de mensonge. Le roi, soleil, etc., n'a point été libertin. Le fils du soleil, Ramsès, ne s'est point souillé par des impuretés. Le roi soleil, etc., n'a point secoué la tête en entendant des paroles de vérité. Le fils du soleil, Ramsès, n'a point inutilement allongé ses paroles. Le roi, soleil, etc., n'a pas eu à dévorer son cœur, c'est-à-dire à se repentir de quelques mauvaises actions. On voyait enfin à côté de ce texte curieux, dans le tombeau de Ramsès Meïyamoun, des images plus curieuses encore, celles des péchés capitaux. Il n'en reste plus que trois de bien visibles. Ce sont la luxure, la paresse et la voracité, figurées sous forme humaine, avec les têtes symboliques de bouc, de tortue et de crocodile. La grande salle du tombeau de Ramsès V, celle qui renfermait le sarcophage et la dernière de toutes, surpasse aussi les autres en grandeur et en magnificence. Le plafond creusé en berceau et d'une très belle coupe a conservé toute sa peinture. La fraîcheur en est telle qu'il faut être habitué au miracle de conservation des monuments de l'Égypte pour se persuader que ces frêles couleurs ont résisté à plus de 30 siècles. On a répété ici, mais en grand et avec plus de détails dans certaines parties, la marche du soleil dans les deux hémisphères pendant la durée du jour astronomique, composition qui décore les plafonds des premières salles du tombeau et qui forme le motif général de toute la décoration des sépultures royales. Les parois de cette vaste salle sont couvertes, du soubassement au plafond, de tableaux sculptés et peints comme dans le reste du tombeau, et chargés de milliers d'hiéroglyphes formant les légendes explicatives. Le soleil est encore le sujet de ces bas-reliefs, dont un grand nombre contiennent aussi, sous des formes emblématiques, tout le système cosmogonique et les principes de la physique générale des Égyptiens. Une longue étude peut seule donner le sens entier de ces compositions, que j'ai toutes copiées moi-même en transcrivant en même temps tous les textes qui les accompagnent. C'est du mysticisme le plus raffiné. Mais il y a certainement, sous ces apparences emblématiques, de vieilles vérités que nous croyons très jeunes. J'ai omis dans cette description, aussi rapide que possible, d'un seul des tombeaux royaux, de parler des bas-reliefs dont sont couverts les piliers qui soutiennent les diverses salles. Ce sont des adorations aux divinités de l'Égypte, et principalement à celles qui président aux destinées des âmes. Phthah Socharis, Atmou, la déesse Mère Sochar, Osiris et Anubis. Tous les autres tombeaux des rois de Thèbes, situés dans la vallée de Biban el-Molouk et dans la vallée de l'Ouest, sont décorés soit de la totalité, soit seulement d'une partie des tableaux que je viens d'indiquer. Et selon que ces tombeaux sont plus ou moins vastes et surtout plus ou moins achevés. Les tombes royales véritablement achevées et complètes sont en très petit nombre, savoir celle d'Amenophis III, même nom, dont la décoration est presque entièrement détruite, celle de Ramsès Meïmoun, celle de Ramsès V, probablement aussi celle de Ramsès le Grand, enfin celle de la reine Tahoser. Tous les autres sont incomplètes. Les unes se terminent à la première salle, changée en grande salle sépulcrale, d'autres vont jusqu'à une seconde salle des tombeaux complets. Quelques-unes même se terminent brusquement par un petit réduit creusé à la hâte, grossièrement peint, et dans lequel on a déposé le sarcophage du roi, à peine ébauché. Cela prouve invinciblement ce que j'ai dit au commencement, que ces rois ordonnaient leur tombeau en montant sur le trône, et si la mort venait les surprendre avant qu'il fût terminé, les travaux étaient arrêtés et le tombeau demeurait incomplet. On peut donc juger de la longueur du règne de tous les rois inhumés à Biban el-Molouk par l'achèvement ou par l'état plus ou moins avancé de l'excavation destinée à sa sépulture. Il est à remarquer à ce sujet que les règnes d'Aménophis III, de Ramsès le Grand et de Ramsès V furent, en effet, selon Manéthon, de plus de 30 ans chacun, et leurs tombeaux sont aussi les plus étendus. Il me reste à parler de certaines particularités que présentent quelques-unes de ces tombes royales. Quelques parois conservées du tombeau d'Aménophis III, même nom, sont couvertes d'une simple peinture, mais exécutées avec beaucoup de soin et de finesse. La grande salle contient encore une portion de la course du soleil dans les deux hémisphères, mais cette composition est peinte sur les murailles sous la forme d'un immense papyrus déroulé, les figures étant tracées au simple trait, comme dans les manuscrits et les légendes, en hiéroglyphes linéaires, arrivant presque aux formes hiératiques. Le musée royal possède des rituels conçus en ce genre d'écriture de transition. Le tombeau de cet illustre pharaon a été découvert par un des membres de la commission d'Égypte dans la vallée de l'Ouest. Il est probable que tous les rois de la première partie de la 18e dynastie reposaient dans cette même vallée et que c'est là qu'il faut chercher les sépulcres d'Aménophis Ier et II et des quatre Thoutmôsis. On ne pourra les découvrir qu'en exécutant des déblayements immenses au pied des grands rochers coupés à pic dans le sein desquels ces tombes ont été creusées. Cette même vallée recèle peut-être encore le dernier asile des rois thébains des anciennes époques. C'est ce que je me crois autorisé à conclure de l'existence d'un second tombeau royal d'un très ancien style, découvert dans la partie la plus reculée de la même vallée, celui d'un pharaon thébain nommé Skhaï, lequel n'appartient certainement point aux quatre dernières dynasties thébaines, les 17e, 18e, 19e et 20e. Dans la vallée proprement dite de Biban el-Molouk, nous avons admiré, comme tous les voyageurs qui nous ont précédés, l'étonnante fraîcheur des peintures et la finesse des sculptures du tombeau d'Ouziraï Ier, qui, dans ses légendes, prend les divers surnoms de Noubéï, d'Atoti et d'Amonéï, et dans son tombeau, celui d'Ouziraï. Mais cette belle catacombe dépérit chaque jour. Les piliers se fendent et se délitent. Les plafonds tombent en éclats et la peinture s'enlève en écailles. J'ai fait dessiner et colorier sur place les plus riches tableaux de cet hypogée pour donner en Europe une idée exacte de tant de magnificence. J'ai fait également dessiner la série de peuples figurés dans un des bas-reliefs de la première salle à piliers. J'avais cru d'abord, d'après les copies de ces bas-reliefs publiés en Angleterre, que ces quatre peuples, de races bien différentes, conduits par le dieu Horus tenant le bâton pastoral, étaient les nations soumises au sceptre du pharaon Ouziraï. L'étude des légendes m'a fait connaître que ce tableau a une signification plus générale. Il appartient à la troisième heure du jour, celle où le soleil commence à faire sentir toute l'ardeur de ses rayons et réchauffe toutes les contrées de notre hémisphère. On a voulu y représenter, d'après la légende même, les habitants de l'Égypte et ceux des contrées étrangères. Nous avons donc ici sous les yeux l'image des diverses races d'hommes connues des Égyptiens et nous apprenons en même temps les grandes divisions géographiques ou ethnographiques établies à cette époque reculée. Les hommes guidés par le pasteur des peuples, Horus, sont figurés au nombre de 12, mais appartenant à 4 familles bien distinctes. Les 3 premiers, les plus voisins du dieu, sont de couleur rouge sombre, taille bien proportionnée, physionomie douce, nez légèrement aquilin, longue chevelure nattée, vêtue de blanc, et leur légende les désigne sous le nom de Rot-en-ne-mrom. La race des hommes. Les hommes par excellence, c'est-à-dire les Égyptiens. Les 3 suivants présentent un aspect bien différent. Peau couleur de chair tirant sur le jaune ou teint basané, nez fortement aquilin, barbe noire, abondante et terminée en pointe, courts vêtements de couleurs variées. Ceux-ci portent le nom de Namu. Il ne peut y avoir aucune incertitude sur la race des 3 qui viennent après. Ce sont des nègres. Ils sont désignés sous le nom général de Nahasi. Enfin, les 3 derniers ont la teinte de peau que nous nommons couleur de chair, ou peau blanche de la nuance la plus délicate, le nez droit ou légèrement voussé, les yeux bleus, barbe blonde ou rousse, taille haute et très élancée, vêtus de peau de bœuf conservant encore leurs poils, véritables sauvages tatoués sur diverses parties du corps. On les nomme Tamhu. Je me hâtais de chercher le tableau correspondant à celui-ci dans les autres tombes royales, et en le retrouvant en effet dans plusieurs, les variations que j'y observais me convainquirent pleinement qu'on a voulu figurer ici les habitants des 4 parties du monde, selon l'ancien système égyptien. Savoir, premièrement, les habitants de l'Égypte, qui, à elle seule, formaient une partie du monde, d'après le très modeste usage des vieux peuples. Deuxièmement, les Asiatiques. Troisièmement, les habitants propres de l'Afrique, les Nègres. Quatrièmement, enfin, et j'ai honte de le dire, puisque notre race est la dernière et la plus sauvage de la série, les Européens, qui, à ces époques reculées, il faut être juste, ne faisaient pas une trop belle figure dans ce monde. Il faut entendre ici tous les peuples de race blonde et à peau blanche, habitant non seulement l'Europe, mais encore l'Asie, leur point de départ. Cette manière de considérer ces tableaux est d'autant plus la véritable que, dans les autres tombes, les mêmes noms génériques reparaissent et constamment dans le même ordre. On y trouve aussi les Égyptiens et les Africains représentés de la même manière, ce qui ne pouvait être autrement. Mais les Namu, les Asiatiques, et les Tamhu, les races européennes, offrent d'importantes et curieuses variantes. Au lieu de l'arabe ou du juif, si simplement vêtu dans le tombeau d'Ouzireï, l'Asie a pour représentant dans d'autres tombeaux, ceux de Ramsès Meïamoun, etc., 3 individus toujours à teint basané, nez aquilin, œil noir et barbe touffue, mais costumés avec une rare magnificence. Dans l'un, ce sont évidemment des Assyriens. Leur costume, jusque dans les plus petits détails, est parfaitement semblable à celui des personnages gravés sur des cylindres assyriens. Dans l'autre, les peuples Mèdes, ou habitants primitifs de quelque partie de la Perse, leur physionomie et costume se retrouvant en effet, trait pour trait, sur les monuments dits persépolitains. On représentait donc l'Asie par l'un des peuples qui l'habitait, indifféremment. Il en est de même de nos bons vieux ancêtres, les Tamhu. Leur costume est quelquefois différent. Leurs têtes sont plus ou moins chevelues et chargées d'ornements diversifiés. Leur vêtement sauvage varie un peu dans sa forme, mais leur teint blanc, leurs yeux et leur barbe conservent tout le caractère d'une race à part. J'ai fait copier et colorier cette curieuse série ethnographique. Je ne m'attendais certainement pas, en arrivant à Biban el-Molouk, d'y trouver des sculptures qui pourront servir de vignettes à l'histoire des habitants primitifs de l'Europe, si on n'a jamais le courage de l'entreprendre. Leur vue a toutefois quelque chose de flatteur et de consolant, puisqu'elle nous fait bien apprécier le chemin que nous avons parcouru depuis. Le tombeau de Ramsès Ier, le père et le prédécesseur d'Ouziraï, était enfoui sous les décombres et les débris tombés de la montagne. Nous l'avons fait déblayer. Il consiste en deux longs corridors sans sculpture, se terminant par une salle peinte, mais d'une étonnante conservation, et renfermant le sarcophage du roi, en granit, couvert seulement de peinture. Cette simplicité accuse la magnificence du fils, dont la somptueuse catacombe est à quelques pas de là. J'avais le plus vif désir de retrouver à Biban el-Molouk la tombe du plus célèbre des Ramsès, celle de Sésostris. Elle y existe en effet. C'est la troisième à droite dans la vallée principale. Mais la sépulture de ce grand homme semble avoir été en butte, soit à la dévastation par des mains barbares, soit au ravage des torrents accidentels qui l'ont comblé à très peu près jusqu'au plafond. C'est en faisant creuser une espèce de boyau au milieu des éclats de pierre qui remplissent cette intéressante catacombe que nous sommes parvenus, en rampant et malgré l'extrême chaleur, jusqu'à la première salle. Cet hypogée, d'après ce qu'on peut en voir, fut exécuté sur un plan très vaste et décoré de sculptures du meilleur style, à en juger par les petites portions encore subsistantes. Des fouilles entreprises en grand produiraient sans doute la découverte du sarcophage de cet illustre conquérant. On ne peut espérer d'y trouver la momie royale, car ce tombeau aura sans doute été violé et spolié à une époque fort reculée, soit par les Perses, soit par des chercheurs de trésors, aussi ardents à détruire que l'étranger ravide d'exercer des vengeances. Au fond d'un embranchement de la vallée et dans le voisinage de ce respectable tombeau reposait le fils de Sésostris. C'est un très beau tombeau, mais non achevé. J'y ai trouvé, creusé dans l'épaisseur de la paroi d'une salle isolée, une petite chapelle consacrée aux mânes de son père, Ramsès le Grand. Le dernier tombeau, au fond de la vallée principale, se fait remarquer par son état d'imperfection. Les premiers bas-reliefs sont achevés et exécutés avec une finesse et un soin admirables. La décoration du reste de la catacombe, fournée de trois longs corridors et de deux salles, a été seulement tracée en rouge. Et l'on rencontre enfin les débris du sarcophage du pharaon en granit, dans un très petit cabinet dont les parois, à peine dégrossies, sont couvertes de quelques mauvaises figures de divinités, dessinées et barbouillées à la hâte. Son successeur, dont le nom monumental est Rameri, ne s'était probablement pas beaucoup inquiété du soin de sa sépulture. Au lieu de se faire creuser un tombeau comme ses ancêtres, il trouva plus commode de s'emparer de la catacombe voisine de celle de son père, et l'étude que j'ai dû faire de ce tombeau palimpseste m'a conduit à un résultat fort important pour le complément de la série des règnes formant la 18e dynastie. Le temps ayant causé la chute du stuc, appliqué par l'usurpateur Rameri sur les sculptures primitives de certaines parties du tombeau qu'il voulait s'approprier, je distinguai sur la porte principale les légendes d'une reine nommée Tahoser, et le temps, faisant aussi justice de la couverte dont on avait masqué les premiers bas-reliefs de l'intérieur, a mis à découvert des tableaux représentant cette même reine, faisant les mêmes offrandes aux dieux et recevant des divinités les mêmes promesses et les mêmes assurances que les pharaons eux-mêmes, dans les bas-reliefs de leurs tombeaux et occupant la même place que ceux-ci. Il devint donc évident que j'étais dans une catacombe creusée pour recevoir le corps d'une reine, et je dois ajouter, d'une reine ayant exercé par elle-même le pouvoir souverain, puisque son mari, quoique portant le titre de roi, ne paraît qu'après elle dans cette série de bas-reliefs, la reine seule se montrant dans les premiers et les plus importants. Menephtha-Siphtha fut le nom de ce souverain en sous-ordre. Comme j'avais déjà trouvé à Gebel Selsélé des bas-reliefs de ce prince qui avait, après le roi Horus, continué la décoration du grand Spéos de la carrière, j'ai dû reconnaître alors dans la reine Tahoser la fille même du roi Horus, laquelle, succédant à son père, dont elle était la seule héritière en âge de régner, exerça longtemps le pouvoir souverain, et se trouve dans la liste des rois de Manéthon, sous le nom de la reine Atchenxerxès. Je m'étais trompé à Turin en prenant l'épouse même d'Horus, la reine Mahomot, pour la fille de ce prince, mentionnée dans le texte de l'inscription d'un groupe. Cette erreur de nom, indifférente pour la série des règnes, n'aurait point été commise si la légende de la reine, épouse d'Horus, eût conservé ses titres initiaux, qu'une fracture a fait disparaître. Siphtha ne porte donc le titre de roi qu'en sa qualité d'époux de la reine régnante, ce qui déjà avait eu lieu pour les deux maris de la reine Amensé, mère de Thoutmôsis III, Muéris. Ce fait diminue un peu l'odieux de l'usurpation du tombeau de la reine Tahoser et de son mari Siphtha par leur cinquième ou sixième successeur, qui ne devait point, en effet, avoir pour eux le respect dû à des ancêtres, parce qu'ils descendaient directement de Ramsès Ier et que, d'après les listes, il était tout au plus le frère de la reine Tahoser, Atchenxerxès, et continuait directement la ligne masculine à partir du roi Horus. Mais cela ne saurait justifier le nouvel occupant. D'abord, d'avoir substitué partout à l'image de la reine la sienne propre, au moyen d'addition ou de suppression, en l'affublant d'un casque ou de vêtements et d'insignes convenables seulement à des rois, et non à des reines. Et en second lieu, d'avoir recouvert de stuc tous les cartouches renfermant les noms de la reine et de Siphtha, pour y faire peindre sa propre légende. Cette opération a dû, toutefois, s'exécuter fort à la hâte, puisque, après avoir métamorphosé la reine Tahoser en roi Rameri, on n'a point eu la précaution de corriger sur les bas-reliefs le texte des discours que les dieux sont censés prononcer, lesquels sont toujours adressés à la reine, et ne sauraient l'être convenablement au roi, ni par leur forme, ni par leur contenu. Le plus grand et le plus magnifique de tous les tombeaux de la vallée encore existants fut sans contredit celui du successeur de Rameri, Ramsès Meïyamoun. Mais aujourd'hui, le temps où la fumée a terni l'éclat des couleurs qui recouvrent la plupart de ces sépulcres. Il se recommande d'ailleurs par 8 petites salles percées latéralement dans le massif, des parois du premier et du deuxième corridor, cabinets ornés de sculptures du plus haut intérêt et dont nous avons fait prendre des copies soignées. L'un de ces petits boudoirs contient, entre autres choses, la représentation des travaux de la cuisine, un autre, celle des meubles les plus riches et les plus somptueux. Un troisième est un arsenal complet où se voient des armes de toute espèce et les insignes militaires des légions égyptiennes. Ici, on a sculpté les barques et les canges royales avec toutes leurs décorations. L'un d'eux aussi nous montre le tableau symbolique de l'année égyptienne, figuré par 6 images du Nil et 6 images de l'Égypte personnifiées, alternées, une pour chaque mois et portant les productions particulières à la division de l'année que ces images représentent. J'ai dû faire copier, dans l'un de ces jolis réduits, les deux fameux joueurs de harpe avec toutes leurs couleurs, parce qu'ils n'ont été exactement publiés par personne. En voilà assez sur Biban el-Molouk. J'ai hâte de retourner à Thèbes, où l'on ne sera point fâché de me suivre. Je dois cependant ajouter que plusieurs de ces tombes royales portent sur leurs parois le témoignage écrit qu'elles étaient, il y a bien des siècles, abandonnées et seulement visitées, comme de nos jours, par beaucoup de curieux désœuvrés, lesquels, comme ceux de nos jours encore, croyaient s'illustrer à jamais en griffonnant leurs noms sur les peintures et les bas-reliefs qu'ils ont ainsi défigurés. Les sceaux de tous les siècles y ont de nombreux représentants. On y trouve d'abord des Égyptiens de toutes les époques qui se sont inscrits, les plus anciens en hiératique, les plus modernes en démotique. Beaucoup de Grecs de très ancienne date, à en juger par la forme des caractères. De vieux Romains de la République, qui s'y décortent avec orgueil du titre de Romanos. Des noms de Grecs et de Romains du temps des premiers empereurs. Une foule d'inconnus du bas empire, noyés au milieu des superlatifs qui les précèdent ou qui les suivent. Plus des noms de coptes accompagnés de très humbles prières. Enfin, les noms des voyageurs européens que l'amour de la science, la guerre, le commerce, le hasard ou le désœuvrement ont amenés dans ces tombes solitaires. J'ai recueilli les plus remarquables de ces inscriptions, soit pour leur contenu, soit pour leur intérêt sous le rapport paléographique. Ce sont toujours des matériaux. À cet endroit-ci, dans le texte, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1 qui dit ce qui suit. À Beni Hassan el-Kadim, dans le tombeau du nommé Rotei, c'est l'hypogée composée d'une seule chambre rectangulaire ornée dans le fond de deux rangées de trois colonnes et dont la porte regarde à l'ouest et la vallée de l'Égypte. On remarque sur la paroi méridionale un enfoncement régulièrement taillé comme pour une armoire, et c'est dans l'épaisseur de cet enfoncement que j'ai trouvé écrite au charbon et presque effacée cette inscription bien simple. 1806, 3e régiment de dragons. Je me suis fait un devoir de repasser pieusement ces traits à l'encre noire avec un pinceau en ajoutant au-dessous J.F.C.RST.1828. J.F. Champollion, restituit. Retour au texte de Jean-François Champollion. Ce sont toujours des matériaux et tout trouve sa place dans mes portefeuilles égyptiens qui auront bien quelque prix translaté à Paris. J'y pense souvent. Adieu. Fin de la 13e lettre et du 13e fichier des lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829 par Jean-François Champollion.